Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Veillée d'armes pour les manifestants opposés à la réforme des retraites demain et préparatifs aussi pour ceux qui vont devoir faire avec les perturbations qui s'annoncent massives dans les écoles, les transports. Et quelle mobilisation! Le gouvernement appelle à ne pas bloquer le pays. Il sera pourtant de fait en partie paralysé. On y reviendra longuement tout au long de cette édition. Et voilà que les jeunes rejoignent le mouvement, alors pas encore sur le marché de l'emploi, mais déjà bien préoccupés par leur trimestre. Qui sont-ils? On en parlera à 12h40 avec Vincent Serrano qui est allé à leur rencontre. Et puis c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Réforme des retraites, comprenez-vous la mobilisation de certains jeunes?
La retraite, votre retraite, vous le savez, c'est une journée spéciale sur RTL.
La rédaction répond à toutes vos questions. Vous nous avez écrit pour nous parler de votre situation. Nous vous répondrons à 12h20 avec Nerissa et Mani. Et puis, dans les auditeurs ont la parole, Pascal, à partir de 13h.
RTL toujours plus proche de vous dans une dizaine de minutes. RTL midi chez vous en France.
Et oui, aujourd'hui, on ira d'est en ouest sur les traces de la neige qui est tombée jusqu'en Bretagne. À suivre aussi la mort du ministre de l'Intérieur ukrainien dans un crash d'hélicoptère. Raphaël Nadal éliminé à l'Open d'Australie. Et la ferveur qui monte à Cassel dans le Nord, puisque l'US Pays de Cassel affronte le PSG lundi en Coupe de France. Les billets sont déjà en train de s'arracher. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT Midi. On parlera littérature avec le meilleur vendeur de livres en France. C'est toujours lui, c'est Guillaume Musso.
Les auditeurs ont la parole à partir de 13h. Vous pourrez réagir sur la phrase de Marine Tondelier, qui est la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, qui a dit hier lors d'un meeting: nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires.
Avant ça, la météo, ce sera avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
On en parlait dans les titres, la neige encore cet après-midi?
Encore, mais des chutes de neige plus faibles et puis encore, surtout beaucoup de pluie sur l'ouest du pays.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal. La neige, on en parlait, qui est tombée et bien tombée déjà à Châteauroux dans l'Indre. Corinne est boulangère, elle a été surprise par tous ces flocons tombés dans la nuit.
Ma voiture, quand je suis sortie ce matin, j'avais une montagne d'à peu près bien 20 cm. Mon mari avait prévu le coup, il m'avait mis une couverture sur la voiture. Et avec mon fils, on a eu du mal à la retirer, tellement elle était pleine de neige. Je peux vous assurer que la voiture, elle a glissé plus d'une fois. Hein. Oui, oui. Ça va qu'on roulait tous à 40, les gens sont très, très... Ils allaient doucement, il n'y en a pas un qui a fait le fou. Hein. Non, non. Et puis là, ça s'en va seulement que maintenant, puis encore, c'est encore bien blanc devant le magasin. C'est très beau, très, très joli. Si j'avais un portable, je vous l'enverrais.
Et bravo au mari pour la couverture qui a anticipé. Témoignage recueilli pour RTL par Julie Brault.
Il n'y en a pas un.
RTL Midi.
Il n'y en a pas un qui a fait le fou, disait cette dame. Un jeudi dans la rue ou un jeudi de galère, c'est un peu le dilemme demain pour de nombreux Français.
Oui, majoritairement hostiles à la réforme des retraites. Combien seront-ils finalement à se mobiliser pour la première grande journée d'action? Le gouvernement demande à ne pas transformer la mobilisation en blocage du pays. Mais ce qui est certain, Martial Youx, c'est que ce pays, il sera en partie paralysé. Oui. Ça s'annonce très compliqué, par exemple, côté transport.
Côté transport, ça va être compliqué. La circulation des TGV, elle sera très perturbée. Un TGV sur 3 sur l'axe nord, 1 sur 4 pour l'est, 1 sur 5 pour l'Atlantique et 1 sur 3 sur les TGV sud-est. Même chose du côté des Ouigo, puisqu'il faudra compter un train sur 3 pour ces low cost. Alors ensuite, sur le trafic régional, vous avez à peine un TER sur 10, aucune circulation pour les intercités. Et puis en Ile-de-France, bien évidemment, là, la situation va être complexe. Un RER A et B sur 3, à peine un RER C et E sur 10. On se met dans le métro vite fait, ce sera compliqué
fait,
aussi.
On va y rentrer voilà. Ou pas déjà?
Mais ça, c'est jeudi, nous sommes d'accord, mais vendredi, par exemple, tout roule normalement.
Alors, il y a une réunion de l'intersyndicale dès jeudi soir, donc dès demain soir, pour se mettre d'accord sur la suite du mouvement. Donc, on rentre dans un mouvement long. Ce ne sera pas forcément pour une grève vendredi, mais ils vont se mettre d'accord sur le calendrier.
Mais ça peut quand même mouvement.
Non, a priori, on est sur, pour l'instant, des grèves carrées, comme on dit, c'est-à-dire là, le truc s'arrête à partir de... Il y aura peut-être encore des petites perturbations sur la matinale, mais logiquement, c'est organisé sur 24 heures. Je disais la RATP, hein, là, vous avez la 8, la 10 et la 11. Les trois lignes seront entièrement fermées. Sur les autres lignes, ce sera compliqué, et ça circulera un peu sur les heures de pointe le matin. Et puis, vous aurez bien sûr les lignes automatiques la 1 et la 14, mais qui vont être bondées parce que tout le monde va se rabattre sur ces lignes-là.
On parle de trains, de métro qui restent à quai. Pour les avions, ça passe ?
Pour les avions, 1 sur 5. Ça va à peu près. C'est 1 sur 5 uniquement à Orly. 100% des vols long courrier qui seront assurés chez Air France et 90% dans les compagnies, les autres compagnies. Et dans l'éducation, là, vous avez aussi un fort mouvement qui s'enclenche et qui sera sans doute appelé à durer. 70% des enseignants du primaire qui seront en grève ce jeudi et une mobilisation chez les jeunes, les lycéens. On attend des filtrages à l'entrée des lycées. Et je vous rappelle aussi que samedi, il y aura une manifestation spécifiquement organisée par la jeunesse.
Merci beaucoup, Martial You. On a parlé des écoles, non ?
Absolument.
On a parlé des écoles.
70% d'enseignants en grève.
Merci, excusez-moi, j'étais perturbée.
Et pour encadrer les manifestants, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés.
C'est ce qu'a annoncé ce matin sur RTL le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui anticipe la présence possible de casseurs dans les cortèges.
Je ne sais pas s'il y aura du monde dans les manifestations de demain, à Paris comme ailleurs, mais nous nous préparons sur le fait qu'il y ait du monde. Et il y a plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 à Paris. C'est beaucoup. On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents. Alors soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, ou des ultra-gauches. Et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont l'immense majorité, j'imagine, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser.
Gérald Darmanin avec Amandine Bégaud ce matin sur RTL.
En Ukraine, le ministre de l'Intérieur est mort ce matin, tué par le crash d'un hélicoptère.
Oui, l'appareil à bord duquel il voyageait s'est écrasé près de Kiev sur une école, Sophie Jousselin, et on déplore au total 18 morts.
Oui, 18 morts, dont 3 enfants. Un lourd bilan qui pourrait encore s'aggraver. 29 blessés sont hospitalisés, dont 15 enfants, indiquait le gouverneur de la région. 9 des victimes étaient à bord de l'appareil, donc le ministre de l'Intérieur, également son premier adjoint, un secrétaire d'État, leurs assistants et l'équipage de l'hélicoptère, un super Puma, selon le porte-parole des forces aériennes ukrainiennes. Volodymyr Zelensky, sur son compte Telegram, parle d'une terrible tragédie, d'un matin noir pour l'Ukraine. Il a annoncé avoir chargé les services de sécurité et de police de trouver les causes du crash, de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'une conséquence directe de la guerre avec la Russie. On ne sait pas quelle était la destination finale de l'appareil. Un des points chauds du pays, là où se déroulent les combats, a simplement précisé un proche du président Zelensky.
Sophie Jousselin pour RTL, merci.
RTL Midi.
Blessé, il a tout donné, mais il n'a rien pu faire. Rafael Nadal a été éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie.
Touché à la hanche, l'Espagnol tenant du titre a longtemps souffert avant de s'incliner, Christophe Mallet.
Il ne voulait pas arrêter Rafael Nadal, même blessé à la hanche, les grimaces de douleur, l'inquiétude dans les yeux. L'Espagnol ne voulait pas quitter le tournoi comme ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait pour être ici cette année. Oui mais voilà, une accélération en bout de course, une de trop, peut-être aura eu raison de sa hanche et de son Open d'Australie 2023.
Étant le champion en titre, je ne voulais pas abandonner, je ne voulais pas sortir du cours comme ça. J'ai perdu, il n'y a rien d'autre à dire, j'ai perdu, bravo à mon adversaire. Mais c'est le sport, tu dois faire de ton mieux jusqu'au bout. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière, tout en essayant de ne pas me faire encore plus mal, car je ne sais pas ce qui se passe en ce moment.
Le champion en titre éliminé donc en 3-7 a quitté la Rod Laver Arena sous les ovations du public, un public australien qui est en droit de se demander s'il reverra le champion espagnol ici même à Melbourne. Au lendemain du tournoi, il pourrait pointer au mieux à la 6e place mondiale, le pire classement de l'Espagnol depuis 2017.
Christophe Mallet à Melbourne pour RTL. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche, c'est l'hiver, c'est bien l'hiver et ça se sent.
Ah bah oui, ça y est, l'air froid est bien là et on a des températures alors qu'ils sont souvent en plus sous les normales de saison. On est 3 à 5 degrés sur la moitié nord. Normalement, la moyenne, c'est 7 degrés, jusqu'à 7 dans le sud et quand même 10 à 14 près de la Méditerranée. Ça reste encore doux pour la saison. Côté ciel, maintenant, on a encore de l'instabilité sur l'ouest du pays avec des averses sur l'Aquitaine. Localement orageuses sur les côtes, sur le nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie. Là, ce sont des averses sous forme de pluie et neige mêlées possibles cet après-midi, avec un coup de tonnerre parfois possible. Ça pourrait même blanchir sur les hauteurs. C'était le cas ce matin sur les hauteurs bretonnes, par exemple. Et sur le reste, on a encore des chutes de neige, alors qui seront plus faibles cet après-midi entre l'Alsace, le Massif central, les Alpes, avec un fort risque d'avalanche sur le nord des Alpes. On a toujours 7 départements en vigilance orange, neige, verglas. Et puis, ça reste un temps sec et même lumineux avec de belles éclaircies sur les régions centrales, donc entre les frontières du nord, le centre du pays, en allant vers l'est des Pyrénées et près de la Méditerranée avec du vent. En revanche, en Corse, c'est un temps instable avec des averses et de la neige dès 900 mètres.
Merci Peggy.
On un jour chez vous, en France,
dans un instant,
l'info, plus près de vous.
On va parler de la neige qui tombe justement dans tous les...
Mais la pause d'abord.
Presque. Exactement.
À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, un jour chez vous.
Et c'est la neige évidemment qui va nous préoccuper, Céline.
Avec nos journalistes qui ont enfilé gants et bonnets pour traquer les flocons. On commence avec vous, Nicolas Bobby, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Langonnette, c'est dans le Morbihan, à l'ouest donc, au pied des montagnes noires, qui portent mal leur nom aujourd'hui, Nicolas.
Ah oui, absolument. Alors j'ai bien revêtu ma veste de snowboard et les montagnes noires sont complètement... blanche. Langonnette ressemble à une toute petite station de sport d'hiver. Bon, il n'y a pas de téléski. De toute manière, ce sera un petit peu dangereux de faire du ski parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et j'ai rencontré Joëlle qui est très heureuse de l'or blanc qui recouvre son jardin.
J'adore. Je suis surprise. C'est de l'engrais pour mon jardin, pour mon potager. Je suis émerveillée. Moi, j'adore la neige. Pourvu que ça dure.
Eh bien, c'est pas sûr que ça dure. En tout cas, la scène est surréaliste, complètement inhabituelle en Bretagne. Nous sommes au centre de la Bretagne. Catherine a un grattoir en main.
Et là, je déglace la voiture et je la désenneige également. Je crois qu'il a neigé à peu près entre 5 et 10 cm de neige cette nuit. C'est un peu la surprise. C'est magnifique. C'est magnifique parce que maintenant, à cette époque-ci, les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. C'est... un beau spectacle enneigé.
Et ce beau spectacle enneigé mérite la photo, surtout lorsqu'il y a des vaches dans les champs tout blancs. J'ai même croisé deux petites biches tout à l'heure qui sont venues me dire bonjour.
Nous étions à l'ouest, nous allons aller plus à l'est avec Valentin Boisset. Bonjour, vous êtes à Langres, en Haute-Marne. C'est quand même plus fréquent la neige, vous l'avez constaté ce matin. On était équipés pour déneiger, Valentin.
Eh oui, parce qu'il y a des risques d'accident quand il y a de la neige. On a quand même une couche ici de près de 15 cm. Et je peux vous dire que j'en entends des coups de pelle et des coups de raclette dans toutes les rues. Jean-Marc, justement, il est agent à la mairie de Langres. Et après un tour en saleuse tôt ce matin, sa tâche est désormais de déblayer les routes autour du centre-ville, celles qui n'étaient pas prioritaires dans un premier temps.
On nettoie les trottoirs pour pas que les gens glissent déjà. Bon, là, on fait tous les espaces publics. Déjà en priorité, où c'est qu'il y a du monde, les bordures. Et comme les gens eux-mêmes doivent dégager devant leur pas de porte, et où c'est qu'il n'y a personne, eh bien on dégage.
Madame, je vais vous tenir sur les rambardes, vous avez peur de glisser, j'imagine?
Oui, de peur de tomber, parce que j'ai une prothèse de genou, alors je fais attention, pas glisser. J'habite à 10 km, et puis il y en a au moins 10 cm largement.
Voilà, et paroles d'habitants, cela faisait près de 4 ans que le plateau de Langres n'avait pas connu une telle couche de neige en plein hiver. Prudence donc, toujours, si vous prenez la route dans les environs.
Et soyez prudents vous aussi, Valentin, en rentrant à la rédaction. Et puis il y a aussi la neige qui fait du bien. Samuel Goldschmidt, vous êtes-vous à Gérardmer, dans les Vosges, où elle était très très attendue?
C'est peu de dire qu'elle était attendue, hein, car il n'y a pas eu de vraie saison jusqu'à présent, c'est quand même rare. Valérie Lanoué, de l'Office du tourisme de Gérardmer.
Oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde d'un coup, là. D'abord, tous les locaux, parce qu'ils sont en manque de neige, hein, tout simplement. Et puis, le Grand Est va venir très vite.
Une aussi longue période sans neige, c'était déjà arrivé?
Non, pas vraiment. Pas autant. Alors, ouvre le domaine nordique aujourd'hui et le domaine alpin ouvre officiellement vendredi, mais démarre dès demain avec l'école de ski français.
Justement, au domaine nordique, Aymeric Bourlier-Mathieu voit tout de suite la différence, lui qui est hôtelier, restaurateur et loueur de matériel.
Ça fait évidemment une différence. Tout simplement, là, on était fermé jusqu'à hier. On ouvre la partie location aujourd'hui.
Et tout de suite ce matin, vous avez combien de clients là ?
On a eu une vingtaine de clients sur la matinée à peu près.
Ça donne un peu d'oxygène ?
Oui, on l'attendait quand même avec impatience. Économiquement, c'est tout simplement catastrophique, puisque je vous dis, là, on était fermé jusqu'à maintenant. Bon, alors on avait un petit peu d'hébergement de groupe sur certains week-ends, mais c'est sûr qu'économiquement, c'est une catastrophe, quoi.
C'est là que l'on mesure un peu plus l'importance économique de la neige, surtout que le 30e festival du film fantastique démarre lui aussi le 25, dans une semaine exactement.
Samuel Goldschmidt à Gérardmer, donc dans les Vosges pour RTL. Merci à tous les trois, messieurs.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, vous le savez, c'est une journée spéciale sur RTL. On répond à toutes vos questions sur la réforme des retraites. Nerissa et Mani est là, et elle, c'est tout, Nerissa, à tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
vous le savez, c'est une journée spéciale sur RTL, puisque la rédaction se mobilise pour répondre à toutes vos questions sur la réforme des retraites. Je vous rappelle que vous pouvez aussi les poser au 3210 à partir de 13h, et vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait par mail. Bonjour Nerissa Imani.
Bonjour Céline.
Vous avez relevé le courrier de la boîte mail de la rédaction, et vous vous êtes plongé dans cette réforme des retraites pour répondre à toutes les questions. On commence avec celle de Vincent.
Bonjour, Vincent, vigneron dans le Val-de-Loire. Je me pose la question de savoir si les régimes spéciaux sont concernés par cette réforme de la retraite à 64 ans, tout simplement, ou s'ils auront encore des régimes spéciaux.
Alors dites-nous, Nerissa, il se passe quoi avec les régimes spéciaux ?
Avec la réforme, fini les régimes spéciaux. On le répète beaucoup, hein, mais pour les nouveaux embauchés chez EDF, RTE, les clercs de notaire, par exemple, ils seront affiliés au régime général. Ce qui signifie qu'eux aussi vont devoir travailler un peu plus, 2 ans de plus. Exemple, un conducteur de métro à la RATP, il peut partir à la retraite dès 52 ans aujourd'hui. Eh bien, en 2030, ce sera 54 ans. Résumé, les nouveaux salariés des régimes spéciaux pourront toujours partir plus tôt en retraite par rapport aux salariés du privé ou des fonctionnaires. Ce ne sera pas 64 ans.
Oui, mais les régimes spéciaux, c'est dans 43 ans. C'est pour les nouveaux entrants, nous sommes
exactement
d'accord. Ça ne va pas s'arrêter demain pour ceux qui sont
c'est
entrés il y a 20 ans.
C'est le début de la fin, on peut dire ça comme voilà. Ça, mais oui, c'est
donc,
pour les nouveaux entrants.
Donc, les effets, c'est dans 43 ans, lorsqu'on aura la finalité de ce régime spécial qui sera interrompu. Nerissa, on a reçu beaucoup de questions à propos du service militaire. Il est toujours pris en compte pour la retraite ?
Oui, toujours. 3 mois de service vous donnent droit à un trimestre, avec une limite de 4 trimestres par année civile. Ça ne change pas avec la réforme, ça vous permettra toujours de partir plus tôt avec le dispositif carrière longue. Et à savoir que bien souvent, le service militaire n'apparaît pas dans votre relevé de carrière. Vous savez, sur le site Info Retraite, par exemple. Et pas d'inquiétude, à ce moment-là, il faut demander ce document auprès du Centre des Archives du Personnel Militaire de Pau. J'insiste parce qu'on nous a beaucoup posé la question.
Vous venez de nous dire que les trimestres du service militaire étaient bien pris en compte, mais au fait, revenons à la base, c'est quoi exactement un trimestre ? Bon, 3 mois, d'accord, mais ensuite, c'est la question de Martin.
Bonjour, je m'appelle Martin, moi je suis intermittent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept des trimestres qui est un peu brouillon pour moi ? Combien de temps on doit travailler dans un trimestre pour qu'il soit validé ?
Alors, Nerissa, un trimestre ?
Alors, un trimestre. Pour calculer un trimestre, ce qu'il faut regarder, c'est votre rémunération. C'est pas le temps passé au travail, c'est votre rémunération. Un trimestre équivaut à 150 heures payées au SMIC, soit 1690 euros bruts cette année. À partir du moment où vous avez touché cette somme, vous validez un trimestre pour l'assurance retraite. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent, très bien votre vie, que vous cotisez plus vite, puisqu'il y a un plafond, vous pouvez cotiser 4 trimestres maximum sur une année. Et pour ça, il faut gagner 6500 euros brut par an.
Autre question de Romain, je le cite, je suis né en 1964, j'ai une carrière complète en tant qu'agriculteur, avec la réforme, à quel âge puis-je partir à la retraite ?
Alors, si vous êtes né en 1964, vous pourrez partir à la retraite à 63 ans en 2026. Pour avoir la pension de retraite la plus élevée, là, il faudra avoir cotisé 171 trimestres, soit 2 de plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est pour ce cas particulier. Mais généralement, à partir du 1er septembre, chaque génération devra travailler 3 mois de plus pour atteindre l'âge légal de départ à 64 ans pour tous en 2030.
Nérissa, on a annoncé hier sur RTL que le chiffre des naissances était le plus bas observé en France depuis 1946. On parle aussi politique de natalité. Nathalie et Lola nous ont demandé si les enfants, ça comptait toujours dans le calcul de la retraite.
Oui, ça compte toujours, ça ne change pas avec la réforme. Vos enfants vous donnent droit à des trimestres supplémentaires d'assurance retraite, qu'ils soient adoptés ou non. La règle est la même. Si vous travaillez dans le privé, vous avez droit à 8 trimestres qui vont d'office à la mère. Les fonctionnaires, eux, sont moins bien lotis. Ils ont droit à 4 trimestres. Et c'est même 2 trimestres si les enfants sont nés après 2004.
C'est 8 trimestres par enfant ?
8 trimestres par enfant dans le privé, oui.
Donc si vous avez 4 enfants, vous avez 32 trimestres.
Oui.
Mais alors, pour être... je parle sous votre contrôle, évidemment, Nérissa, mais c'est 4 trimestres pour la maternité en tant que telle, 4 pour l'éducation.
Exactement.
Qui peuvent être... qui peuvent être ventilés avec le papa ou l'autre parent.
Ça peut être ventilé avec le papa pour les 4 derniers trimestres pour l'éducation des enfants, mais seulement si les enfants sont nés après 2012.
Une particularité.
Bah écoutez, merci beaucoup Nérissa parce que ces questions sont passionnantes et puis elles permettent d'en savoir davantage. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser toutes vos questions au 3210. On y répondra dans les auditeurs en la parole à partir de 13h, Céline.
Et on rappelle que tout ça c'est le texte en l'état, que cette réforme des retraites elle va arriver ensuite devant les parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Que ces dispositifs changeront peut-être à la marge. On sera évidemment attentif sur RTL à tout ce qui peut être modifié dans ce texte, que ça changera pour vous. On n'a en tout cas pas fini d'en parler, ça c'est une certitude. On va scruter, vous le savez, demain la taille des cortèges. Et dans un quart d'heure maintenant, on parlera de la place des jeunes dans ces cortèges. Ils n'ont pas forcément posé beaucoup de questions à l'adresse mail RTL, mais ils semblent se mobiliser contre cette réforme des retraites qui n'ont pas encore commencé à travailler. Vincent Serrano, notre reporter, est allé les rencontrer. Il sera avec nous donc dans un petit quart d'heure pour nous parler de ces jeunes qui se mobilisent pour leur avenir
lointain. C'est vrai que c'est un paradoxe. On le disait hier, on attend des jeunes qu'ils soient Rimbaud et finalement, ils vont être
Vous attendiez ça d'eux. Vous.
On aime ça, qu'il soit Rimbaud à 20 ans, mais ils ne sont pas dans cet état d'esprit.
Et quoi à 60 alors, Pascal dit.
À 60, c'est un autre âge, mais à cet âge-là, on peut faire autre chose. Peut-être que penser à sa retraite, peut-être.
Beaucoup pensent à leur avenir.
Bien sûr, mais la retraite, c'est loin. Bon, dans un instant, le retour des infos avec le journal de 12h30. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il sera dans quelques secondes 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure de votre grande édition, Céline.
10 000 policiers et gendarmes mobilisés demain pour assurer la sécurité des cortèges en cette première grande journée d'action contre la réforme des retraites. Le gouvernement appelle aujourd'hui encore à ne pas bloquer le pays et pourtant il sera en partie paralysé dans les transports, trains, métros seront nombreux à rester à quai. Les écoles seront aussi fortement touchées. Un peu plus vieux, les étudiants pourraient bien rejoindre eux aussi les cortèges. Ils ne travaillent pas encore mais sont déjà très impliqués. À 12h40, dans une dizaine de minutes, on reviendra sur cette mobilisation des jeunes. Vincent Serrano est allé les rencontrer. Il leur a demandé pourquoi ils manifestaient. Est-ce que c'est pour eux, pour leurs parents qui sont plus directement touchés? On fera le point donc dans une dizaine de minutes. À suivre aussi Marine Tondelier, la chef des écologistes qui ne veut plus de milliardaires en France. Le décès de Sœur André, la doyenne de l'humanité qui nous a quittés cette nuit. Et puis la belle histoire de la Coupe de France nous emmènera dans le Nord tout à l'heure où l'US Pays de Cassel s'apprête à défier le PSG et ses stars. Et vous verrez sur place, personne ne veut rater la rencontre. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture avec aujourd'hui Guillaume Musso, star des librairies. Et puis n'oubliez pas notre question du jour sur le site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Comprenez-vous la mobilisation de certains jeunes ?
À partir de 13h avec les auditeurs, on pourra évoquer le souvenir de Sœur André et vous poser cette question. Aimeriez-vous être centenaire ?
On va y réfléchir. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. On a parlé de la neige qui est tombée, qui tombe encore par endroits cet après-midi aussi.
Oui, mais en quantité plus faible et on a aussi encore de bonnes pluies sur l'Aquitaine.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés pour encadrer les manifestations contre la réforme des retraites. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur RTL le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sécurité des cortèges, Maxime Lévy, mais aussi des permanences d'élus, dont certains ont d'ailleurs été explicitement visés par la CGT.
Oui, vous faites référence à la CGT Énergie qui menace de couper directement le courant dans les permanences de parlementaires soutien de la réforme des retraites. Mais la crainte est plus large. Les élus sont susceptibles d'être victimes de menaces physiques ou verbales, d'injures ou de dégradation de biens. Dans une note, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alerte donc toutes les préfectures. Aucun acte d'intimidation, de violence n'est tolérable. Des menaces prises au sérieux, le ministre demande au préfet de mobiliser les effectifs de police et de gendarmerie, de renforcer la surveillance et les patrouilles aux abords des permanences et des domiciles des élus. Une surveillance également sur Internet pour détecter toute menace, tout message de haine et bien sûr toute indication sur un éventuel passage à l'acte. Enfin, le dépôt de plainte pour les élus sera facilité, leur sera proposé un recueil de plaintes en mairie par exemple, en plus des commissariats, afin d'être plus efficace et réactif.
Maxime Lévy pour RTL.
Ce qui est certain, c'est que les perturbations seront considérables dans les transports notamment.
À la SNCF, oui, de nombreux trains resteront à quai. Du côté des TGV par exemple, comptez un train sur 5 sur l'axe Atlantique, 1 sur 4 sur l'axe Est, 1 sur 3 sur l'axe nord, sud-est ou pour les Ouigo, pas d'intercité sauf, c'est une exception pour la ligne Paris-Clermont, des trains régionaux quasi inexistants, c'est guère mieux à Paris pour la RATP, 3 lignes complètement fermées dans la capitale, les 8, 10 et 11, c'est très perturbé sur toutes les autres, à l'exception des lignes automatiques 1 et 14, perturbation aussi dans les airs, un vol sur 5 annulé à Orly, et puis si vous avez des enfants, sachez que d'après le syndicat SNUIPP FSU, un tiers des écoles pourrait être complètement fermée demain.
On en vient maintenant à cette déclaration de Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, hier lors du meeting de la NUPES contre la réforme des retraites.
Et elle promet une opposition acharnée au gouvernement sur le texte. Elle dit vouloir faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France. Marine Tondelier, la nouvelle chef d'Europe Écologie Les Verts, qui a aussi expliqué à la tribune qu'elle voulait une France sans milliardaires.
Non, les milliardaires, ça ne sert à rien. Ils sont toxiques pour le climat. Et rien, aucun mérite, aucun talent, aucun courage, rien ne justifie d'accumuler autant d'argent. N'oublions jamais, jamais que s'ils ont autant, qu'ils l'aient gagné ou hérité, c'est que forcément, oui forcément, il provient directement ou indirectement cet argent de l'exploitation des ressources naturelles et de l'exploitation des femmes et des hommes.
Marine Tondelier au meeting de la NUP hier à Paris.
Ça pourra faire réagir des auditeurs, parce que même dans les années 70, je n'ai pas souvenir de déclarations aussi violentes contre les riches, entre guillemets. Les retraites ?
Avec donc cette grande journée de mobilisation, on en parlait attendu demain en France, le sujet est très explosif chez nous, mais qu'en est-il ailleurs, aux États-Unis par exemple? Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les Américains peuvent aujourd'hui prendre leur retraite à 62 ans. Ils ont eux aussi un système par répartition, Lionel Gendron, mais dans les faits, pour pouvoir en profiter, il faut souvent avoir en plus une retraite complémentaire, hein, Lionel.
Oui, Richard, 69 ans, montre son atelier, sa tanière depuis sa retraite il y a un an. Il y dessine et fabrique des meubles. Ancien cadre d'une entreprise pétrolière, il bénéficie d'un plan de retraite généreux souscrit par son employeur.
Environ 775 000 dollars. C'est bien, oui.
D'autant que cet habitant du New Jersey touche en plus la retraite mensuelle à laquelle tout travailleur a droit en fonction de son ancien salaire. Pour Richard,
plus ou moins 2 800 dollars. Tout le monde n'a pas ma chance.
Comme Joanne, elle aussi a 69 ans, dans un quartier modeste du Queens à New York, cette enseignante en photographie résume ainsi sa vie.
Travail, travail, travail.
Une carrière en dents de scie, pas d'économie à placer dans un plan d'épargne retraite, elle est bloquée par cette équation.
J'ai 1900 dollars de retraite par mois et 2100 dollars de loyer.
Joanne enseigne toute la semaine dans deux écoles différentes. Jusqu'à quand ?
Ah mon Dieu, jusqu'à la mort, je n'ai pas le choix.
Seule consolation, dit-elle. Elle adore son métier.
Lionel Gendron aux États-Unis, donc pour RTL.
RTL Midi.
Et en pleine tension sociale, une bonne nouvelle pour le gouvernement. Le spectre des coupures de courant semble bel et bien derrière nous.
Les efforts ont payé. On pourrait le résumer comme ça. Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Les Français ont suffisamment baissé leur consommation.
Tout à fait. Moins 8,5% ces quatre dernières semaines par rapport à la moyenne entre 2014 et 2019. Alors cette diminution sur l'électricité, RTL l'observe notamment dans l'industrie, dans les bureaux, mais aussi chez les particuliers. Et certaines entreprises consomment moins car l'électricité coûte plus cher et les particuliers ont fait des efforts sur leur consommation, des efforts qui sont durables. Voilà pourquoi notamment RTE passe désormais d'un risque élevé de coupure à un risque moyen. Et soyons clairs, l'essentiel du risque est derrière nous. Les périodes les plus tendues étaient celles de fin novembre et de début janvier. Il faudra observer février, mais le parc nucléaire est désormais disponible aux trois quarts avec 43 réacteurs en marche sur 56. Et effectivement, il faut aussi parler du gaz, naturellement, parce qu'il y avait, on évoquait quelques problèmes il y a quelques mois. Et c'est vrai que les centrales à gaz ont été très sollicitées pour pallier les indisponibilités du parc nucléaire. Mais cela n'a pas posé de problème dans les stocks, car les industriels ont moins consommé, tout comme les particuliers, moins 13% depuis l'annonce du plan national de sobriété énergétique.
Merci beaucoup, Arnaud Touche.
C'est donc avec moins d'appréhension sur le front de l'énergie que l'on accueille la vague de froid qui touche le pays. Quoi, la vague de froid ? Il fait 7 degrés dans Paris, c'est pas non plus...
Oui, mais la France, ce n'est pas que Paris, Pascal. Vous l'avez entendu il y a un petit quart d'heure. La neige est tombée jusqu'en Bretagne, en pleine par endroits. Elle est aussi tombée à Montluçon, dans l'Allier. Christine est boulangère. Elle s'est, vous vous en doutez, levée tôt ce matin et tout était blanc.
Pour une fois, elle est tenue un petit peu. Il y en a un petit peu partout sur les toits, un petit peu sur la route. Alors, ça fait plaisir à voir, mais nous, à Montluçon, on n'est pas habitués à la neige. Les Québécois doivent se ficher de notre figure parce que on est vraiment très, très rarement enneigés. Alors, les Montluçonnais sont vite perdus.
Vous avez pris la voiture, par exemple, pour aller travailler ?
Ah oui, moi j'ai pris la voiture, mais moi j'habite dans un chemin, alors c'est jamais dégagé, mais j'ai l'habitude, donc je roule doucement, mais sûrement.
Doucement mais sûrement, Christine, donc à Montluçon, jointe pour RTL, à part Julie Bro.
Elle a enfin été entendue, Sœur André, la doyenne de l'humanité, décédée la nuit dernière dans son sommeil. Elle était née en 1904.
Elle aurait eu 119 ans le 11 février prochain et vivait dans une maison de retraite de Toulon, dans le sud de la France. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous avez eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, Sœur André. Ouais. Et vous nous le disiez, c'est un sacré personnage qui s'en va.
Ah oui, Sœur André était devenue évidemment la coqueluche de la maison de retraite Sainte-Catherine-Labouret, ici à Toulon. Elle avait beaucoup d'humour et d'autodérision. Son secret de longévité, c'était sa gourmandise, disait-elle, les confitures de cerises et le petit verre de Porto à l'occasion, mais aussi le chocolat.
Gourmande, pendant la guerre de 14, on n'avait pas beaucoup de gourmandise à avoir. Mais après, quand je suis devenue plus grande, qui a eu du chocolat, j'ai appris à manger du chocolat. Alors là, c'est le régal.
Mais ce qui faisait surtout l'admiration, c'était sa longue vie de labeur, de son vrai nom Lucille Randon. Elle naît à Alès dans le Gard, vous le disiez, en 1904. Elle est ensuite gouvernante à Versailles. Elle entre tardivement dans les ordres. En 1944, elle a déjà 40 ans. Puis elle travaille à Vichy, dans la Drôme, en Savoie, dans des maisons de retraite, où elle s'occupe de pensionnaires parfois plus jeunes qu'elle. Elle met à dire qu'elle avait travaillé jusqu'à 108 ans. Depuis plusieurs mois, sa santé déclinait. En avril dernier, elle m'avait confié en plaisantant que souhaitait se retirer de cette affaire, mais le bon Dieu ne m'entend pas. Aujourd'hui, le bon Dieu a exaucé son dernier vœu et elle est allée rejoindre son frère André, qu'elle adorait et dont elle avait pris le prénom en entrant dans les ordres.
Étienne Baudu à Toulon, donc pour RTL.
Le sport et la Coupe de France comme on l'aime, avec la belle histoire de l'US Pays de Cassel.
L'équipe de Régional 1 affrontera le PSG lundi soir à Bollaert, le stade du RC Lens, et certainement à guichet fermé, puisque depuis hier seulement, plus de 32 000 billets se sont arrachés. Franck Hanson, vous êtes à Cassel dans le Nord, où l'on attend donc le match avec une grande impatience.
Oui, sur la grande place pavée de Cassel, sous le soleil ce midi, Antoine Baudel, le boulanger, qui suit régulièrement ses footballeurs amateurs, a réussi à décrocher ses places.
Il fallait en avoir, c'est obligatoire. C'est un match à pas louper. Un rêve inimaginable, on n'aurait jamais pu le croire en début de saison. Arriver en 16e de finale de la Coupe de France contre le PSG en plus, c'est magique. C'est des amateurs de foot, mais des vrais passionnés. Et ils savent jouer au football. C'est la Coupe des rêves, donc on ne sait jamais.
L'engouement est énorme dans toute la région. Les couleurs jaune et noire, celles du pays de Cassel, seront largement majoritaires dans le stade lensois. Écharpes et drapeaux s'arrachent, nous confirme Floriane à l'office de tourisme.
Alors il y a les drapeaux, donc à différentes
différentes tailles, les drapeaux, les écussons, les badges. C'est ça, le symbole des Flandres, le lion. Ça part très très bien, on a dû renflouer un peu les stocks là. On aime bien le PSG, mais je pense que là vraiment, on préfère encore plus Cassel.
Et Gérard, l'un des supporters flamands, se dit que sur un malentendu, on peut faire trébucher les stars parisiennes.
Ça peut le faire, je pense pas, mais effectivement, la première défaite du PSG cette saison, c'était où? C'était à Bollard.
Au moins, ces amateurs du Nord sont sûrs de gagner dans les tribunes.
Oui, ça c'est quasiment acquis. Merci beaucoup Franck Hanson. Et la rencontre, ce sera donc lundi à 20h45. Moins réjouissant pour les amateurs de tennis, ces mots de Rafael Nadal qui se dit détruit mentalement. L'Espagnol a été éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie par l'Américain McDonald en 3-7. Il s'est blessé à la hanche, ce qui laisse craindre une nouvelle longue période d'absence pour Rafa. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, comme promis. Alors 7 degrés, Pascal disait à Paris, mais ailleurs 5.
Oui. Ah. Je rectifie. Mais quoi qu'il en soit, on
à
est
la volée,
les...
comme ça,
voilà.
Pascal.
On est sous les normales de saison. Non, parce qu'il nous disait 7. Bon, ça va, c'est doux. Non.
Non, c'est le mot vague de froid.
Oui, non, on n'est pas sur une vague
réagir.
De froid, mais c'est vrai voilà. Qu'en fait, par rapport à ce qu'on a vécu il y a quelques temps, bah, d'un seul coup, on se dit, bah, il fait particulièrement froid.
Hiver.
On n'a pas eu d'hiver, et là, ça y est, on est en période hivernale avec des températures, c'est vrai, qui sont sous les normales de saison. On a encore de la neige sur l'est du pays, quelques chutes de neige, alors qui sont plus faibles hein, entre l'Alsace, le Massif central, les Alpes, avec un fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, donc prudence. Ça reste perturbé sur l'ouest du pays, instable avec des averses, de fréquentes averses encore sur l'Aquitaine, orageuse sur les côtes. Sur le nord-ouest, notamment entre la Bretagne et la Normandie, des averses cet après-midi sous forme de pluie et neige mêlée, ça pourrait même blanchir sur les hauteurs. Et puis c'est un temps plus sec et même plus lumineux entre les frontières du Nord, la région centrale, et en allant vers l'est des Pyrénées, également sur le pourtour méditerranéen, avec du vent. En revanche, en Corse, c'est de l'instabilité avec des averses et de la neige dès 900 mètres. Les températures, donc, on le disait, froides par endroits, sous les normales de saison, 0 à Langres, 2 à Besançon, 3 à Metz, 4 à Rouen, 5 à Paris et Limoges, 6 à Cherbourg, 7 à Toulouse, 9 à Perpignan, c'est plus doux près de la Méditerranée avec 10 degrés à Montpellier, 11 à Marseille, 12 à Ajaccio et 14 à Nice.
Merci Peggy.
Ils ont 100 ans de moins que Sœur André et ils seront peut-être dans les cortèges demain matin. Qui sont ces jeunes qui manifestent pour leur retraite? Pourquoi manifestent-ils? On répond à cette question avec Vincent Serrano qui les a rencontrés. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
École fermée, transport très perturbé. Vous le savez, la mobilisation demain pour la première grande journée de manifestation contre la réforme des retraites s'annonce massive. Mais dans les cortèges, combien de jeunes? Ils ne sont pas, a priori, les premiers concernés. Et pourtant, certains sont bien décidés à défiler. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Et bonjour Thomas Després.
Bonjour à tous.
Du service politique d'RTL. Vincent, vous êtes allé à la rencontre oui. de ces jeunes. D'abord, qui sont-ils?
Des lycéens, des étudiants de 17 à 24 ans pour le plus âgé dans tous les domaines. Je vous en cite quelques-uns. Médecine, pharmacie, école d'infirmières, STAPS, éco-gestion, droit, enfin, de tous horizons. La majorité travaille déjà. Ça, c'est important aussi. Des jobs étudiants, serveurs, équipiers dans un fast-food, garde d'enfants. Et puis, il y a ceux aussi qui sont en alternance dans leur cursus. Et puis, il y a un point commun quand même à tous ces jeunes, c'est que bah, la volonté d'abord de dire qu'ils vont manifester et qu'ils sont concernés par cette réforme des retraites. Ça, c'est très important pour beaucoup d'étudiantes que j'ai rencontrées.
On se projette aussi. Dans 50 ans, on en aura encore moins de la retraite. C'est vraiment un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à toute la liste des causes d'anxiété que la jeunesse, elle ressent actuellement. Enfin, ils galèrent pendant leurs études, ils galèrent à s'insérer professionnellement. Après, ils vont galérer pour avoir une retraite.
Là, on ne sait même plus aujourd'hui comment on va faire pour tout simplement pour arriver à avoir notre retraite. C'est une anxiété qui est permanente.
Et de voir qu'encore une fois, c'est les plus précaires qui vont payer, oui, c'est quelque chose qui nous fait aller dans la rue, oui.
C'est une minorité ou c'est massif comme mouvement?
Ce qui est sûr, c'est que la quasi-totalité des syndicats étudiants et lycéens appellent à la mobilisation dans la rue, au sein des cortèges ou pour les lycéens, surtout pour les lycéens, avec un appel au blocus général de leurs établissements. Maëlle est syndiquée à la FAGE et les remontées du terrain sont pour elle encourageantes.
À Lille, à Amiens, au niveau de Dijon aussi, Lyon également. Enfin, on a des fédérations où on sait actuellement que ça va se mobiliser. Après, c'était clair que le réseau avait envie de suivre sur ce combat-là. Alors les jeunes, ils en ont marre, là. Plus confiance en les pouvoirs publics sur plein de sujets. Ils se sentent plus concernés par plein de thématiques. Et là, je pense que c'est un peu la goutte de trop, quoi. Vraiment. Comment on peut sereinement anticiper notre avenir en tant que jeune dans la société qu'on voit actuellement, en fait?
Maëlle, qui est en Master 2, hein, 5 ans qu'elle participe à des manifestations, elle sent que demain, la mobilisation sera très forte.
Et Vincent, ces jeunes, ils manifestent pour eux ou pour leurs parents ?
Mais les deux. Arthur m'a fait le détail, tient de son cursus. Il est aujourd'hui en master, donc cinquième année. La première année à l'université, première manif avec les gilets jaunes. Les deux années d'après Covid, télétravail, pas de job étudiant, et cette fois-ci les retraites. Il se dit effrayé par cette réforme des retraites.
Là, typiquement, je pense à mon père qui travaille dans les travaux publics depuis qu'il a 20 ans, avec en plus le retrait des critères de pénibilité, etc. Je le vois déjà, il a une cinquantaine d'années, il a déjà pas mal de petits soucis de santé par rapport à tout ça, physiquement. Et je me dis que là, avec le recul de l'âge à la retraite encore, qu'au final, il va peut-être pas pouvoir profiter de sa retraite convenablement. Et là, c'est de penser à notre famille, à notre vie aussi, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que on ne sait pas où on va demain.
Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe là, maintenant, pour nos parents? Qu'est-ce qui va se passer pour nous demain? Le mot d'ordre pour les étudiants, c'est de se mobiliser demain et voir ensuite comment on poursuit le mouvement, mais frapper très fort dès demain.
Et cette inquiétude et cette anxiété qu'on entend est palpable et elle peut étonner les gens qui sont d'une autre génération.
On va aller retrouver Thomas Després, maintenant, en direct de l'Élysée. Thomas, le Conseil des ministres s'est achevé il y a quelques dizaines de minutes maintenant. Comment le gouvernement appréhende cette mobilisation des plus jeunes demain?
Il le regarde ça avec un petit peu d'attentisme, un conseil expliqué encore ce matin. Nous ne sommes pas Madame Irma et personne d'ailleurs en coulisses ne s'avance à donner des estimations comme ça à moins de 24 heures des premiers cortèges. Tout est un peu suspendu, reconnaît même un ministre. Le président, lui, Emmanuel Macron, a confié son état d'esprit à des journalistes hier. Il ne croit pas pour l'heure à un mouvement d'ampleur venu de la jeunesse, une jeunesse aujourd'hui dispersée, sauf si, dit Emmanuel Macron, une figure tutélaire émergée, comme ce fut le cas pour Daniel Cohn-Bendit en mai 68 ou plus récemment Bruno Julliard pendant la contestation contre le CPE. Mais aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne, ni Jean-Luc Mélenchon, ni personne d'autre n'est parvenu à fédérer derrière lui la jeunesse sur le sujet des retraites. Le président qui a aussi eu cette phrase hier en forme de coup de pression. Il ne croit pas en la victoire de l'irresponsabilité. Comprenez, ceux qui manifestent demain contre sa réforme seraient des irresponsables.
Merci beaucoup Thomas Després, donc en direct de l'Élysée. On suivra évidemment demain avec attention cette mobilisation des jeunes, mais aussi la mobilisation au sens plus large,
bien
et la
sûr.
Taille des cortèges.
Mais on pourra écouter dans les auditeurs les témoignages très forts de Vincent Serrano, de ces jeunes gens effectivement qui ont 20 ans et qui sont si inquiets de leur avenir. Dans un instant, laissez-vous tenter midi, indétrônable Guillaume Musso, cette année encore l'écrivain est le plus grand vendeur de livres en France. On en parle avec Bernard Lehu, à tout de suite.
Venez partager votre avis au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Tout va bien.
Vous avez entendu Bernard Lehu, parce qu'on avait un petit débat pour souligner effectivement que ces jeunes sont inquiets. Et Bernard disait, en tout cas pour Guillaume Musso, tout va bien. On vous a entendu Bernard?
Ben oui, je sais.
Tout va bien, mais ça fait un moment que tout va bien pour lui.
Ben oui, c'est la 12e année consécutive.
Ça se vérifie avec l'Institut GFK, c'est la vigie du monde de l'édition. Hein, Bernard et Le Figaro qui publient leur palmarès annuel des auteurs les plus lus. Et vous le disiez, l'an passé, en 2022, donc pour la 12e année consécutive, le roi des ventes est et reste donc Guillaume Musso.
Et sa performance est d'autant plus remarquable qu'il est le seul à franchir la barre du million en 2022. Alors très précisément, 1,383,258 exemplaires, je crois qu'ils y sont tous, 100 000 de plus qu'en 2021. La concrétisation d'un rêve venu de loin pour Guillaume Musso.
J'ai toujours voulu faire ça, quand j'avais 15 ans que je disais... Marcel Pagnol, Barjavel et King, je voulais faire comme eux, je voulais qu'il y ait un jour des gens qui attendent les histoires que je pourrais leur raconter. J'ai jamais voulu avoir un prix littéraire, j'ai jamais voulu être légitimé par le monde de Saint-Germain-des-Prés. J'ai toujours voulu avoir des lecteurs et avoir cet échange-là, cette idée que la littérature est un jeu qui se joue à deux.
Jolie formule. Guillaume Musso est donc plus jamais numéro un des ventes grâce à un triplé gagnant l'an dernier.
Oui, son nouveau roman, Angélique, et les versions poche du précédent, L'inconnu de la Seine, et de Skida Marink. Alors ça, c'était son tout premier livre, sorti quasiment dans l'anonymat en 2001, introuvable depuis, une résurrection qui réjouit particulièrement Guillaume Musso.
J'ai l'image de ma mère qui rentrait dans les librairies, qui demandait si le livre était là, qui en achetait un exemplaire, qui en commandait un. Et quand le roman est ressorti là, et on en a vendu effectivement 300 000 exemplaires, vous savez, c'était un peu pour moi comme Pagnol lorsqu'il parlait du château de ma mère, lorsqu'il avait racheté le château qui faisait peur à sa mère lorsque ça, il devait traverser en famille là, pour aller en vacances. Derrière les chiffres, il y a des histoires humaines et il y a une fierté qui est aussi liée à ma mère, qui est liée à plein de choses qui sont beaucoup plus concrètes et incarnées qu'un nombre d'exemplaires vendus.
Bernard, c'est un peu un apéritif hein, que vous nous proposez ce midi.
Puisque c'est l'heure.
C'est ça. Guillaume Musso s'est longuement confié à votre micro ainsi qu'à celui d'Anthony Martin. Et cet entretien exceptionnel, on pourra le découvrir en intégralité dans le podcast Focus, le podcast de la rédaction. Ce sera à partir de vendredi.
Oui, et donc dans cet entretien, Guillaume Musso raconte notamment la naissance de sa vocation d'écrivain.
À l'âge de 15 ans, oui. Professeur de français, professeur de seconde, monsieur Casanova, qui a la bonne idée d'organiser un concours de nouvelles. Je gagne le concours. Et là, il y a cette prise de conscience, voilà, que quelque chose sorti de mon esprit peut intéresser les autres. Et à partir de là, je commence à prendre des notes, à l'imaginer déjà, des histoires, des embryons de romans. Donc voilà, il y a vraiment eu un avant et un après, grâce à un prof. Et ça a été ce début, effectivement.
Bernard, Guillaume Musso n'a jamais été dans aucune liste, ni Renaudot, ni Goncourt. Non, il n'a jamais rien gagné.
Non, jamais, mais il a gagné l'estime du public.
Il vous a fait une autre confidence étonnante.
Ah oui, il a habitué justement ses lecteurs au rythme d'un nouveau roman chaque année depuis 18 ans. Or, 2023 pourrait bien être l'exception à cette règle.
Alors, pour la première fois, j'arrive en janvier sans avoir de livre en cours.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Voilà, il y a un recentrage sur à la fois ma vie de famille, sur mes enfants, mes parents. Pendant très longtemps, j'ai dit que mes livres étaient comme des enfants, ce qui est une stupidité sans nom.
Mais ce qui veut dire que 2023 sera une année blanche pour Guillaume Musso?
Ce qui veut dire que 2023 sera peut-être une année blanche. Après, vous savez, une idée de livre peut vous tomber dessus, d'un seul coup avoir une urgence de l'écrire. Mais je ne vais pas vous mentir, là, je n'ai pas de projet en cours.
Alors, Guillaume Musso ne sera pas totalement absent des librairies cette année, parce qu'il devrait y avoir la parution en poche de son roman de 2022, Angélique, et parce qu'il nous a annoncé également qu'une version BD d'un autre de ses livres, La vie secrète des écrivains, sortira, elle, c'est une certitude, en octobre.
C'est bien noté. Derrière le champion Guillaume Musso, qui on retrouve parmi les écrivains les plus vendus?
Oui, alors en 2022, en deuxième position du top 10 GFK, Joël Dicker, juste sous la barre du million, troisième, l'étonnante Mélissa Dacosta, qui gagne 4 place en un an et devance Virginie Grimaldi, Pierre Lemaître est cinquième, Franck Tillier sixième, et pour la première fois, un prix Nobel de littérature intègre le top 10, Annie Ernaux à la septième place, un top 10 plus puissant que jamais, comme l'analyse Mohamed Aissaoui du Figaro littéraire.
Si la fiction globale française a légèrement baissé, hein, c'est moins 1%, les 10 auteurs qui ont plus vendu en 2022, eux, réalisent une performance extraordinaire parce que leurs ventes à eux 10 se sont envolées de plus de 9%. En gros, ces 10 auteurs ont vendu 642 000 exemplaires de plus que l'année précédente.
Donc un phénomène de concentration des ventes sur quelques titres qui s'accentue.
Exactement, on constate une sorte de best-sellerisation des ventes. Les 10 auteurs, il faut le souligner, réalisent plus de 20% du marché de la fiction française. Autrement dit, un livre sur 5 de la fiction française est signé de l'un de ces 10 auteurs.
1 sur 5, c'est beaucoup. Merci beaucoup.
Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver parce qu'on est libre quand on est écrivain, ouais. On est tout seul à sa table, et puis on a la reconnaissance du public. Visiblement, on doit bien vivre parce que quand on vend 1 300 000
avec des
livres.
Des chiffres comme cela, évidemment.
Oui. On dépend de personne sauf de son talent et de soi. Donc ça peut être un rêve d'une vie, Bernard Lehu.
Oui, parce que c'est un peu le vôtre, non?
Non, mon rêve, c'est d'être avec Céline tous les jours. Et...
Celui-ci s'exauce assez facilement.
Vous avez cette chance. 12h59, nous partons avec les auditeurs. On va parler de la retraite, notamment. À tout de suite. RTL Midi.